Fenêtre sur le monde vous convie cette semaine en Méditerranée. Nous allons parler de la Sicile, de l'importance historique et géopolitique de cette île. Et pour en parler, je reçois Olivier Hahn, qui est docteur en histoire, historien médiéviste, qui travaille notamment sur les questions de l'histoire médiévale et aussi sur les questions de l'histoire du monde musulman. Il a publié il y a peu, l'année dernière, un très beau et très gros livre sur le Coran. Vous pouvez retrouver dans les podcasts de Conflit une émission que nous avions réalisée avec lui sur l'écriture du Coran. Nous allons partir en Sicile parce que vous savez, Conflit vous propose des séjours d'études que nous reprenons en 2021, désormais que le contexte le permet de nouveau avec notre partenaire Ictus Voyage. Et nous vous proposons donc un séjour d'études d'une semaine en Sicile, fin avril. Vous aurez sur le site de Conflit l'ensemble des informations pour voir le programme de ce séjour, pour vous y inscrire également. Nous espérons vous voir nombreux au cours de celui-ci. Olivia nous accompagnera également pour étudier ce pays, j'allais dire, en tout cas cette région qui n'a jamais été complètement un pays, mais qui a vu passer les Grecs, les Romains, différentes populations européennes, ça a été espagnol, ça a été français, des Arabes aussi y ont été présents. Aller en Sicile, c'est véritablement visiter un territoire où de très nombreuses cultures ont laissé leur place. Et c'est ce que nous allons évoquer avec Olivia Hahn. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Et ainsi, nous allons pouvoir évoquer la Sicile. Ce qui est frappant, effectivement, c'est que c'était le grenier à blé des Grecs. On se souvient de l'expédition de Sicile menée par Alcibiade. Et puis, il y a eu cette occupation arabe, également Frédéric II, qui a été roi de Sicile, ensuite les Angevins. Pourquoi est-ce que la Sicile a attiré autant de populations? Est-ce que c'est bon, évidemment sa situation géographique, mais sa richesse également?
Oui, l'un des premiers éléments majeurs, c'est sa situation, puisque la Sicile fait le lien entre la Méditerranée occidentale, la Méditerranée orientale, elle fait le lien entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud, et donc il est clair que ce carrefour est fondamental. L'attraction aussi pour ces plaines côtières, l'attraction pour ses richesses, même à l'intérieur des terres. Donc, une île stratégique, une île économiquement extrêmement vivante, un art de vie aussi, un art de vivre qui est issu du monde grec, qui a été transformé par Rome, et que les occupants arabes eux-mêmes ont transmis, ont enrichi. L'art de vivre méditerranéen, qui a complètement imprégné la Sicile. Et l'autre élément qui en fait une originalité jusqu'à aujourd'hui, c'est cette manière qu'a eu la Sicile finalement de fusionner les critères sociaux, les critères sociologiques, notamment l'organisation de la société en groupe, autrefois en tribu, puis en système organisé, structuré, hiérarchisé, jusqu'à malheureusement finalement les mafias contemporaines, qui sont de lointains héritiers de ces structures traditionnelles de la vie en société que la Sicile a toujours su maintenir dans le meilleur et dans le pire.
Oui, les mafias, c'est pas forcément ce que la Sicile a apporté de mieux à la société. Non. Mais ce qui est frappant également, et on le verra au cours de ce voyage, c'est une très grande diversité des villes, de l'architecture. À Palerme, par exemple, on a le tombeau de Frédéric II. On a style arabe également. Ce style arabe, est-ce qu'il est propre à la Sicile ou est-ce qu'il se distingue aussi de différents types de styles arabes ailleurs, comme en Andalousie par exemple?
Oui, alors la Sicile, en raison de ces mélanges de gouvernements, a réussi finalement une espèce d'autonomie architecturale, notamment au début du XIIIe siècle avec Frédéric II. Frédéric II qui est venu finalement à la fois en Calabre, dans les Abruzzes et en Sicile avec des héritages architecturaux, militaires qui étaient typiquement germaniques, avec son propre héritage sicilien et sud-italien, et aussi avec ses populations d'origine arabe. Donc il y a effectivement quelque chose de très particulier. Il ne faut pas oublier aussi que la Sicile, avant la conquête musulmane au 8e siècle, au 9e siècle, pardon, la Sicile a subi l'influence de Byzance, notamment la grande reconquête de Justinien remet la Sicile dans le giron byzantin, et on a eu de très nombreuses influences byzantines. Donc si on reprend finalement le déroulé chronologique, au début du Moyen-Âge, une Sicile qui réintègre le giron byzantin, puis à partir des années 825-827, la Sicile commence très progressivement à passer sous contrôle musulman, notamment de conquérants, de pirates qui venaient de l'actuelle Tunisie, qu'on appelle à l'époque l'Ifriqiya. Et donc, ces pirates issus de la Sicile, issus de l'actuelle Tunisie, s'installent tout d'abord dans l'ouest de la Sicile et vont parvenir à conquérir l'ensemble de l'île jusqu'en 902. En 902, toute la conquête est achevée. À partir de là, la Sicile est un point de continuation de cette piraterie islamique, notamment en Italie. Et à partir donc du Xe siècle, l'Italie fait partie du monde islamique, notamment est directement raccrochée à la dynastie des Arlabides, qui est la dynastie présente en Ifriqiya, et on voit une circulation de monnaies arabes, de dinars d'or, de dirhams d'argent en Sicile et dans l'Ifriqiya. Et donc on a des liens organiques, évidemment, entre la Sicile islamique et l'Afrique du Nord, mais, et ça il ne faut jamais l'oublier, l'Italie du Sud, qui elle n'est pas passée dans le giron islamique, elle aussi voit venir des navires, voit venir des commerçants, des marchands issus de la Sicile islamique, et on voit des monnaies musulmanes transiter dans toute l'Italie à travers la Sicile. Donc, bien sûr que la Sicile a été l'un des points de la conquête musulmane. Bien sûr que la Sicile fait partie des postes avancés de l'islam en Méditerranée, mais n'oublions jamais qu'il y a des échanges économiques, des échanges de navires, de marchands, etc. Et ces échanges vont se perpétuer même après la fin de la présence islamique. L'île, la Sicile, durant la présence islamique, est appelée El Sapriliya. Et il y a un wali, un gouverneur, qui dépend de Kairouan directement. Et il y a une influence très multiple au moment de la conquête islamique, influence arabe, influence berbère. Les berbères d'Afrique du Nord sont très présents en Sicile, mais surtout sur les côtes. Alors que l'intérieur et l'est de la Sicile, eux, restent très chrétiens et restent aussi hellénophones. On voit très bien que l'influence byzantine est restée très forte malgré la conquête islamique. Donc on a des zones plus ou moins arabisées, plus ou moins berbérisées, et on a encore d'ailleurs des révoltes chrétiennes qui agitent l'intérieur de la Sicile contre la présence islamique. Donc à l'intérieur des terres, des révoltes, et dans les villes de la côte notamment, on a encore des minorités chrétiennes et aussi, et c'est très important, des minorités juives. Donc on a un monde très métissé, très mixé, ce qui ne veut pas dire que les populations se mélangent complètement, puisque les chrétiens en partie restent chrétiens, il y en a beaucoup qui se convertissent. Et on a donc ces communautés juives qui sont des communautés qui sont polyglottes. On parle l'arabe, on parle l'hébreu, on parle le latin, on parle le grec. Donc on a vraiment, avant même la reconquête ou la conquête de la Sicile par les Normands au XIe siècle, on a une Sicile qui est déjà métissée et qui va le rester après la conquête normande.
Et puis la Sicile, il y a eu Frédéric II, alors qu'on a surnommé à la fois le Stupor Mundi, la stupeur du monde, et en même temps l'Antéchrist. Donc il a eu droit aux deux appellations. Il est enterré à Palerme.
Selon le camp auquel vous appartenez, oui.
Il est enterré à Palerme, là aussi c'est un des très beaux lieux de la Sicile. Il y a un magnifique cénotaphe en marbre rouge, c'est l'endroit où sont enterrés les Hauteville, puisque lui-même, certes, il descend des Allemands, mais il a aussi du sang normand. D'ailleurs, les Normands ont aussi été présents. Puis après lui, ce sont les Angevins, donc Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis. Et d'ailleurs, on a aussi à Palerme des reliques de Saint-Louis, puisque lorsque celui-ci est décédé à Tunis, certaines de ces reliques se sont arrêtées à Palerme pour être déposées.
Oui, exactement. Là, vous avez effectivement résumé les évolutions entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et là encore, même après finalement la conquête de la Sicile par les Normands, puis après le passage de la Sicile dans le giron germanique, cette île finalement reste un point de passage très étonnant avec l'Afrique du Nord, entre la Méditerranée orientale et la Méditerranée occidentale, avec ce Frédéric II très étonnant, qui, alors, on a beaucoup dit qu'il parlait l'arabe, c'est peut-être allé un peu loin, il devait comprendre certains mots de langue arabe, il a favorisé effectivement des traducteurs qui était présent en Sicile pour traduire notamment des traités de vénerie arabe, pour traduire de la médecine en langue arabe. Donc la Sicile sous Frédéric II était là encore un point de passage, un point de transition, de transfert, mais ça reste aussi un point d'attention vers l'Afrique du Nord, au sens où tout souverain qui envisage des relations notamment politiques avec l'Afrique du Nord va passer par la Sicile. Et vous avez évoqué les Angevins, c'est exactement le cas. Charles d'Anjou, qui est le frère de Saint-Louis, à partir du moment où il est placé par la papauté en 1266 à la tête du royaume de Naples et de Sicile, Charles d'Anjou mène une géopolitique méditerranéenne extrêmement ambitieuse, où il fait fi finalement des ruptures civilisationnelles. Il a une géopolitique en Italie du Sud, en Méditerranée occidentale, vers le monde chrétien, mais il a aussi une géopolitique vers le monde musulman. Il a des liens avec les Émirats abbassides de Tunis, et il est fort probable que la croisade lancée par Saint-Louis en 1270, qui est une croisade qui, sur le plan stratégique, est une croisade erronée, si je puis dire, puisque la croisade, en principe, a pour but de libérer Jérusalem. Alors là, Saint-Louis lance une croisade vers l'émirat de Tunis, ce qui n'a pas de sens, puisqu'on est quand même très très loin de Jérusalem. Et il est fort possible que l'influence de Charles d'Anjou ait été absolument déterminante dans la croisade de Saint-Louis. Très probablement, Charles d'Anjou envisage une conquête l'Afrique du Nord, de l'actuelle Tunisie, et il envisage d'y créer un protectorat. Et malgré l'échec, finalement, de cette croisade de Saint-Louis en 1270, finalement, elle permet quand même de placer l'émirat de Tunis sous la suzeraineté assez souple de Charles d'Anjou. Et donc, il y a donc bien une géopolitique méditerranéenne, et la Sicile est au cœur de ce basculement permanent entre le nord, le sud, le nord, entre les textes qui circulent, entre les souverains, qu'ils soient normands, qu'ils soient germaniques ou qu'ils soient angevins.
Pourquoi est-ce que la Sicile a été ce carrefour et pas d'autres grandes îles de la région? Je pense à la Sardaigne, par exemple, ou à la Corse, qui sont beaucoup plus pauvres au niveau économique.
Alors, la Sardaigne joue en partie ce rôle au début du XIe siècle, puisque souvent on a dit que, à juste titre, qu'il y avait eu la piraterie sarrasine qui avait occupé toute la Méditerranée occidentale au Xe siècle. Mais on oublie de dire que au XIe siècle, c'est désormais la piraterie chrétienne qui menace, qui crée la menace en Méditerranée occidentale. Et il est vrai que vous avez une multitude d'expéditions génoises, pisanes, qui parcourent notamment la Sardaigne au XIe siècle. Mais la Sardaigne, en fait, n'est qu'un point de passage avant l'Afrique du Nord. La Sardaigne n'est pas devenue ce point de passage, cette espèce de hub, on pourrait dire, de passage à la fois intellectuel, militaire, politique, entre les deux rives de la Méditerranée. Sans doute parce qu'elle était très éloignée de l'Afrique du Nord, et aussi sans doute parce que les possibilités économiques étaient moindres qu'en Sicile.
Aujourd'hui, en Sicile, pour conclure aussi cette émission, quels sont, après vous, les deux, trois monuments vraiment emblématiques? Je pense à la Vallée des Rois, peut-être. Bon, Palerme est une ville en elle-même qui est très intéressante, mais qu'est-ce qui pourrait caractériser principalement ce côté multiculturel de la Sicile?
Alors, plutôt qu'un monument ou qu'une ville, je pense que en Sicile, c'est une respiration, puisque on retrouve la respiration gréco-romaine, on retrouve la respiration de ce Moyen-Âge extrêmement complexe, extrêmement multiple, on retrouve la respiration de populations aux origines variées, mais qui ont fini par fusionner dans un ensemble commun. Je pense que c'est d'abord un climat qu'il faut venir respirer, c'est les pentes du volcan, c'est cette végétation méditerranéenne. Finalement, je pense que on vient en Sicile respirer un air qui est d'une certaine manière l'air aussi qui pourrait être celui de la Toscane, qui pourrait être celui de la région napolitaine, avec là aussi le volcan. En fait, on vient respirer un air de la Méditerranée qui est l'air de multitude de civilisations.
En plus, il y a également du très bon vin en Sicile, ce qui est parfois un peu oublié, mais ça ne compte aussi, ils ont notamment des superbes blancs. Eh bien, merci beaucoup, Olivier-Anne, de nous avoir donné un avant-goût de cette respiration sicilienne et de nous avoir effectivement un petit peu expliqué comment l'ensemble de ces populations, de ces peuples étaient venus sur cette île, est-ce qu'ils en ont apporté? Nous aurons l'occasion de vous en reparler au cours de d'autres émissions, mais c'est effectivement un lieu qui est très intéressant en Méditerranée, qui permet aussi de comprendre l'histoire de l'Europe et l'histoire des relations entre l'Europe et le nord du continent africain. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par ce voyage, eh bien, vous pourrez donc retrouver l'ensemble des informations sur le site internet de Conflit, ainsi qu'avec notre partenaire Ictus Voyage, qui organise des voyages depuis plus de 20 ans et qui a un très grand savoir-faire dans le domaine. Merci pour votre fidélité, à bientôt.